Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Après-demain, samedi, la sonde spatiale Rosetta effectuera une nouvelle mission au-dessus de la comète Chury. De quoi donner des idées à Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. D'une comète à l'autre, c'est de la comète de Halley que j'aimerais vous parler cet après-midi, la plus célèbre en prise avec l'histoire. Et pour nous accompagner sur ce terrain intersidéral, j'ai demandé évidemment à notre monsieur science d'être des nôtres cet après-midi, c'est Alain Sirou. Bonjour Alain.
Bonjour Alain.
Bonjour.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous reviendrez, Franck, sur l'origine de l'expression « tirer des plans sur la comète ».
Oui, et pour tout vous dire, personne ne nous a posé cette question, mais il m'a semblé que ça s'imposait quand même en complément de cette évocation du phénomène Halley.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Je vais vous révéler d'ailleurs ce qui m'a donné envie de vous parler de cette comète de Halley. C'est un article qui est paru dans Le Figaro lors des dernières vacances de Noël. Un article signé Jean-Luc Notias qui m'a paru très inspiré et qui commence, c'est ce qui est le plus amusant, par la mise en évidence d'une personnalité aujourd'hui oubliée. Nous sommes à Prolitz. Prolitz, c'est un tout petit village qui se trouve vraiment dans l'est de l'Allemagne, en Saxe, pas très loin de Dresde, si vous voulez. Et nous sommes le jour de Noël de l'an 1758. Il y a dans ce petit village un monsieur qui s'appelle Palitsch, qui est Johannes Georg Palitsch, qui est laboureur. Ce qu'on appelait laboureur autrefois, c'était ce qu'on appellera un petit peu plus tard infirmier. Enfin bref, c'est un cultivateur aisé, disons. Quelqu'un qui possède ses propres terres. Il a 35 ans, puisqu'il est né en juin 1723. Oui, c'est ça, il a exactement 35 ans, ce monsieur. Et lorsqu'il ne s'occupe pas de ses terres, de ses cultures et de son élevage, il s'intéresse aux astres. Il a les yeux rivés sur le ciel et mieux que ça, ce passionné car c'en est un, est allé jusqu'à acquérir une lunette astronomique qui fait tout de même 3 pieds, c'est-à-dire un petit peu plus de 90 centimètres. Et alors il faut imaginer ce monsieur qui, lorsqu'il rentre des champs et qu'il en a encore la force, braque sa lunette vers le ciel. Il doit passer, à mon avis, beaucoup plus de temps à observer le ciel qu'à faire autre chose. Or, là, ça tombe bien, on est le jour de Noël, donc il a tout son temps. Il est en train de scruter le ciel et tout à coup, dans la constellation du Taureau, il la voit passer, cette fameuse comète. Quand vous avez vu passer une comète, vous ne l'oubliez pas parce que c'est un phénomène céleste tout à fait spécifique, tout à fait marquant bien entendu. Alors, évidemment, il ne va plus faire que ça, Johannes Palitsch. Pendant 48 heures, il a les yeux rivés sur le ciel. Et voilà que 2 nuits plus tard, celle du 27 au 28 décembre, de nouveau, il revoit passer cette comète. Alors, comme il se tient au courant, comme il lit les feuilles scientifiques de l'époque, Johannes Palitsch sait qu'à cette époque, les astronomes sont en train de scruter le ciel à la recherche d'une comète. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un astronome britannique du nom de Edmund Halley, on devrait dire Halley, il est né en 1705, ce monsieur, et il a établi que la comète qu'il a observée, que la comète qui est passée en 1682 est la même que celle qu'on avait déjà vue dans le ciel en 1380, en 1456, en 1531 et en 1607. C'est-à-dire qu'avec une certaine, sinon régularité, avec une certaine récurrence et avec une certaine opiniâtreté, cette comète passe dans le ciel à certains intervalles. Et monsieur Halley a fait ses calculs et il a dit, écoutez, normalement, la comète, elle va repasser en 1758. C'est-à-dire 76 ans après son précédent passage de 1682. C'est en 1705, je précise parce que tout à l'heure je me suis pris un peu les pieds dans le tapis, c'est en 1705 que Halley fait cette prédiction scientifique, si je puis dire, ce calcul. Donc Johannes Palitsch est au courant de ça. Il va parler de sa découverte, si je puis dire, de ce qu'il a observé lui-même à un ami qui s'appelle le docteur Hoffmann. Et le 28 décembre 1758, le docteur Hoffmann, qui lui aussi est un astronome amateur, est chez Palitsch pour observer à son tour la fameuse comète. Et oui, il sait où elle passe, Palitsch, il est au courant maintenant. Il va falloir attendre quand même, alors ils font un compte-rendu dans le Dresdenische Gelehrte Anzeigen, un compte-rendu qui passe complètement inaperçu. Il va falloir attendre la mi-janvier pour qu'un prof de maths, si je puis dire, un mathématicien de Leipzig, on ne sait pas vraiment qui c'est, on pense que ça pourrait être Gottfried Heinsius, le grand Heinsius, mais ce n'est pas une certitude. Il faut attendre donc la mi-janvier pour que lui observe à son tour la fameuse comète. Il est totalement persuadé qu'il s'agit de la comète prévue par Halley. Et il publie le 21 janvier 1759 un mémoire dont voici le titre « Preuve de l'apparition réelle de la comète qui apparut en 1682 et qui, suivant la théorie de Newton, a été prédite par M. Halley et des apparitions qu'elle aura dans la suite du temps » donné par un amateur de l'astronomie. Évidemment, Palitsch est le premier à observer tout ça. Il va d'ailleurs établir des éphémérides. Hein. Il est aux premières loges. Il faut vous dire qu'il va continuer son travail, Palitsch, pendant très longtemps. Il crée un cabinet de production naturelle et un jardin de plantes rares, ce qui vous prouve qu'il avait déjà, bien avant l'heure, le goût de la culture bio, si je puis dire. Et puis, il deviendra parallèlement, correspondant de la Société Royale de Londres, de l'Académie de Saint-Pétersbourg, etc. Donc c'est un monsieur qui vivra encore bien longtemps, puisque 30 ans plus tard, il est toujours là à observer le ciel. Il mourra en février 1788. Alors en France, me direz-vous, bien, en France, personne n'a entendu parler d'une première observation de la comète en Allemagne. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, il y a la revue Ciel et Espace. Aujourd'hui, il y a Alain Sirou sur les ondes d'Europe 1. Et dès qu'il se passe quelque chose d'astronomique, vous pensez bien que tout le monde est immédiatement au courant. À l'époque, ça ne se passe pas comme ça. L'espèce de feuille de chou dont je vous ai parlé n'a sûrement pas dépassé les frontières de la Saxe. Et même si les grandes académies de l'Est, je dirais, et jusqu'en Pologne ont été mises au courant, en France, personne n'a entendu parler de ça. Or, il y a un mathématicien, il s'appelle Clairaut, Alexis-Claude Clairaut, qui, d'après toutes sortes de calculs compliqués, avait calculé que l'action combinée de Jupiter et de Saturne provoquerait un retard sur l'apparition de la comète de M. Halley, un retard de quelques 618 jours tout de même. Et il avait prévu, lui, le passage en 1759. Il était un petit peu pessimiste, si je puis dire. Il la voyait passer fin 59, alors qu'en fait, vous avez bien compris qu'elle est passée fin 58, début 59. Si vous faites la moyenne entre les prédictions de Halley et celle de M. Clairaut, vous arrivez dans la bonne, à peu près à la bonne date. L'astronome français Charles Messier, qui est placé sous la direction du professeur de Lille à l'Observatoire du dépôt de la Marine, ce M. Messier cherche lui aussi la comète, où il la cherche depuis un an. Et à son tour, le 21 janvier 1759, il l'observe. Mais vous voyez qu'il est loin d'être le premier. Hein. Il continue à l'observer en secret parce qu'il ne veut pas se ridiculiser devant ses chers confrères. Ça n'a pas changé, ça. Donc pendant très longtemps, il garde ça pour lui. Et puis finalement, le 14 février, il se décide à parler parce qu'ensuite, elle devient invisible. Elle passe trop près du soleil, elle est trop proche du soleil. Donc on ne la voit plus, la fameuse comète. Le 1er avril seulement, Delisle va faire annoncer la découverte de Messier. Il suit la progression de la comète jusqu'au début du mois de juin. La dernière mention est faite à Lisbonne le 22 juin 1759. Les Français vont apprendre qu'un certain monsieur Palitsch, en Allemagne, là-bas, avait observé la comète depuis bien plus longtemps qu'eux, mais ça, ils ne le sauront que beaucoup plus tard. La comète apparaît dans les mémoires qui sont lues à l'Académie en 1760. Ça devient un véritable phénomène, et ça y est, cette fois, à Paris, et à Paris, n'est-ce pas, est le centre de l'Europe, pour ne pas dire à l'époque le centre du monde, à Paris, enfin, on parle de la comète de Halley.
Das Blut ist zärtlich, das Blut.
de la création de Joseph Haydn, dirigée par Leonard Bernstein sur Europe 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à la découverte de la comète de Halley.
Alors, pour tout vous dire, cette comète, sans bien sûr du tout lui avoir donné de nom, il semblerait qu'elle soit apparue très très tôt. En 1974, des archéologues ont carrément découvert, dans une tombe de plus de 2000 ans, une espèce d'encyclopédie en tissu, en soie, hein, c'est en Chine, là on est en Chine, et il semblerait que cette encyclopédie soit du 7e siècle avant notre ère, hein, elle est même datée de 611, très précisément, et elle contient un atlas complet sur les comètes. Et parmi les comètes en question, il y a sûrement celle de Halley et puis toutes ses sœurs, si je puis dire. Il y a une prédiction astrologique pour chacune des comètes, ce qui montre, entre parenthèses, à quel sommet l'astronomie chinoise avait su se hisser, et très très tôt. Encore une fois, je vous parle de avant l'an 600, avant notre ère. Les Chinois appelaient les comètes étoiles balais, bannières de nuages, c'est très joli, etc. On va écrire les premières théories des comètes dans la Grèce antique. Le philosophe Aristote, dans les météorologiques, écrit que les comètes sont, je le cite, « des exhalaisons terrestres qui s'élèvent dans l'air pur, se condensent, s'embrasent et finissent par se consumer. » Ah, donc selon lui, les comètes, elles viendraient de la Terre, en gros, pour simplifier. Et il lie ces comètes à la météo. « Quand donc les comètes sont nombreuses et denses, dit-il, les années deviennent manifestement sèches et venteuses. » C'est extraordinaire le sérieux avec lequel Aristote, dans bien des domaines, a pu proférer, entre parenthèses, un certain nombre de vérités fantaisistes. Mais ça, nous n'allons pas aujourd'hui ouvrir le chapitre de l'aristotélisme, c'est un autre sujet. Et je m'empresse très vite de refermer la parenthèse. La comète de Halley est passée en l'an 530. On a le témoignage des auteurs byzantins Crérénos et Théophane qui en parlent clairement. Ils disent que son passage a été singulièrement lumineux. Et d'ailleurs, on a fait, ça c'est intéressant, parce qu'on a fait des études du carottage de la calotte polaire. Et à partir, ne me demandez pas comment, on posera peut-être la question tout à l'heure à Alain Sirou. Moi ça me dépasse vraiment, mais en tout cas, grâce à tout ça, les savants ont pu établir qu'effectivement elle était passée aux alentours de 536. Ce qui confirme ce qu'on avait dans les écrits byzantins de l'époque. Un autre événement qu'on peut rattacher à la comète, c'est la chute de Jérusalem en 66 de notre ère, vous savez. 4 ans après son passage supposé, puisque la Bible dit 4 ans après la comète, donc de quelle comète parle-t-on? Ça, c'est pas avéré. Et puis, ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus spectaculaire. Moi, j'adore regarder ça. Quand vous allez à Bayeux, sur la célèbre tapisserie de Bayeux, vous avez une énorme étoile avec tout un panache, comme ça. On voit bien que c'est une comète. Le commentaire dans le latin de l'époque nous dit « isti mirant stella ». Cela regarde l'étoile, mirant, c'est-à-dire l'observe avec étonnement, si vous voulez, et l'étoile en question, il semble bien que ce soit la comète de Halley, puisqu'elle serait passée du 24 avril au 1er mai 1066, donc au moment de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de là, ça c'est quand même inouï, en Normandie et au-delà de la Normandie, dans toute la France, on va se mettre à considérer le passage de la comète comme un signe positif, bénéfique. Et en revanche, en Angleterre, puisque c'est la conquête, puisque c'est la chute d'Harold, etc., eh bien c'est Hastings, vous savez bien, eh bien on considère que, en fait, la comète est néfaste, que c'est un mauvais augure, en quelque sorte. Son passage à notre comète de Halley, toujours, est attesté en Orient et en Europe en 1222. Elle aurait du reste été sculptée à l'époque dans le portail de droite de la cathédrale de Plaisance en Italie. C'est la date de la fin de la construction de la cathédrale. Et puis, entre 1301 et 1305, il y a un certain nombre de passages de comètes, et on pense que parmi ces comètes, il y a notamment celle de Halley. C'est à ce moment-là que le peintre italien Giotto va réaliser son tableau « L'adoration des rois mages », et figurez-vous qu'il peint une étoile censée être l'étoile de Bethléem, puisqu'on parle des rois mages, mais alors qui ressemble à peu près à l'étoile de Bethléem, comme moi à Lady Gaga. En vérité, c'est une comète qu'il a peinte, et une comète qui pourrait bien être la comète de Halley. L'Agence spatiale européenne a appelé une de ses 5 sondes spatiales, lancées en 1985 à destination de Halley, Giotto, justement, en hommage au peintre. Voyez quand même le nombre de témoignages que l'histoire de l'art, là on ne parle pas d'astronomie, on parle d'histoire de l'art, regardez le nombre de traces que ces passages de comètes auront laissées. C'est assez, moi je trouve ça assez fascinant. Un autre passage avéré, c'est donc en 1456. Constantinople, à l'époque, vous savez, est aux mains des Turcs, hein, qui l'ont prise 3 ans plus tôt, en 1453. Ils assiègent à l'époque Belgrade et la légende veut que le nouveau pape, Calixte III, ait excommunié la comète de Halley pour, en signe d'éradication d'un mauvais présage, en quelque sorte, et pour permettre la libération de Belgrade. De fait, la ville de Belgrade a été délivrée en août. Et puis en 1682, donc, alors là, ça c'est l'année de la comète de Halley. Edmund Halley va s'intéresser aux comètes très tôt, hein, il est depuis l'âge de 10 ans. On avait vu apparaître en 1664-1665 deux astres dans le ciel londonien. Et d'ailleurs, la croyance populaire rendait ces astres responsables et de la grande peste et du terrible incendie de Londres. Et puis, alors ça avait fasciné le jeune chercheur qui était Halley, évidemment. Et du 5 au 19 septembre 1682, il suit le passage de la comète. Il est lui-même élève d'Isaac Newton, bien entendu. Et donc, je redonne la date parce que je me suis trompé tout à l'heure, alors que ce soit bien clair. En 1705, Halley publie son Synopsis de l'astronomie des comètes. C'est là qu'il va fixer cette périodicité d'environ 76 ans pour sa comète et qu'il prédit le fameux passage de 1758.
Chers auditeurs, vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages et vos questions via la page Facebook de l'émission, par mail, europe1.fr ou encore Twitter, le compte de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Dans un court instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur la comète de Halley.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous Franck Ferrand à la plus connue de toutes les comètes, la comète de Halley.
Alors cette comète en 1759-60, elle va surtout à partir de 60, elle va beaucoup faire parler d'elle. Et en 1773 va se répandre une rumeur dans Paris. On dit que la comète est de retour, pas du tout comme à la date prévue. On l'annonce pour le 20 mai et elle pourrait avoir des conséquences très néfastes. Voilà ce qu'écrit Voltaire dans sa lettre sur la prétendue comète. La lettre date du 17 mai 1773. Je le cite. « Quelques Parisiens qui ne sont pas philosophes et qui, si on les en croit, n'auront pas le temps de le devenir, m'ont mandé, c'est-à-dire m'ont fait savoir, que la fin du monde approchait et que ce serait infailliblement pour le 20 du mois de mai où nous sommes. Ils attendent ce jour-là une comète qui doit prendre notre petit globe à revers et le réduire en poudre impalpable selon une certaine prédiction de l'Académie des sciences qui n'a point été faite. » On reconnaît bien là l'esprit ironique de ce mécréant de Voltaire qui, non content de ne pas croire à la religion, ne croit pas non plus à la science, en l'occurrence, ou en tout cas à l'usage qu'on veut en faire. Vous savez que ces comètes, on en parlera constamment. Victor Hugo consacre à la comète un très beau et long poème de sa Légende des siècles. Et soudain, comme un spectre entre en une maison, apparue par-dessus ce farouche horizon, une flamme emplissant des millions de lieues, monstrueuse lueur des immensités bleues, splendide au fond du ciel brusquement éclaircie, et les astres effrayants, dit aux hommes, me voici. Jules Verne en fera lui aussi grand usage dans ses voyages et aventures du capitaine Atterras, la comète et le Deus ex machina, dira-t-il. Toutes les fois qu'on est embarrassé en cosmographie, on appelle une comète à son secours. C'est l'astre le plus complaisant que je connaisse. Et au moindre signe d'un savant, il se dérange pour tout arranger. Oui, c'est vrai que quand on ne sait pas trop expliquer le mouvement de tel ou tel corps, on a longtemps, en tout cas, eu tendance à mettre ça sur le dos des comètes. Voilà ce que nous dit Jean-Luc Nottias, donc, dans son article du Figaro en décembre dernier. La comète de Halley n'est ni la plus grosse, ni la plus brillante, ni la plus active, ni celle qui est passée le plus près de la Terre, mais elle est un peu devenue la mère des comètes, la mère entre guillemets. Une comète n'est rien finalement qu'une boule de neige sale et puante venue des profondeurs de l'espace. Mais elle est aussi le témoin gelé de la naissance du système solaire, comme une mémoire de la création. Et comme elle ne perd que 2 à 5 mètres d'épaisseur à chaque passage près du Soleil, elle devrait encore tourner devant nos yeux éblouis quelques millions d'années. À quoi ressemble-t-elle cette comète de Halley? Oh, je vais bientôt poser la question à notre ami Alain Sirou. Mais dites-vous quand même que pour ce qui est des dimensions, pour vous la mettre dans l'œil, elle fait 16 km de long, 8 de large, 7 km à peu près de hauteur. Elle a une forme très irrégulière, un petit peu la forme d'une cacahuète si vous voulez, avec une masse de 100 milliards de tonnes. Ah oui, tout de même. Quelle est sa composition? C'est ce que disait Jean-Luc Nottia, c'est-à-dire un peu des fragments de roche, de la poussière, de la glace, de la neige carbonique, des hydrocarbures. Tout ça, évidemment, en mouvement dans l'espace. C'est ce qu'il y a de si fascinant. Et elle passe donc, celle qui nous intéresse, près du Soleil, tous les 76 ans environ. On verra pourquoi. Pendant longtemps, il y a eu une théorie qui était la théorie de Descartes, la théorie des tourbillons, qui disait que les particules de terre étaient les plus grosses, celles d'air étaient moyennes, celles de feu petites, et que tout ça s'assemblait en tourbillons, et chaque tourbillon contenait en son centre une étoile, disait-il. C'était une sorte d'explication des galaxies avant la lettre et avant l'heure, on y viendra tout à l'heure. Il se trouve que Newton est passé par là, qu'il a fait voler en éclats, si j'ose dire, ces vieilles théories plus ou moins fumeuses, et que c'est à partir des travaux de Newton que tous les autres travaux auront pu être réalisés, à commencer par ceux d'Halley, qui, encore une fois, je vous le redis, était un élève de Newton. La comète est donc de mieux en mieux connue des scientifiques. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de secrets, quoique Alain Sirou va nous dire qu'il y a encore sans doute des choses à découvrir. Ce qui est étonnant, ce sont tous les contes, toutes les légendes, tous les présages bons ou mauvais qui peu à peu se sont attachés à ces histoires de comètes. On a essayé de relier au passage de la comète des épidémies, des famines, des sécheresses, des inondations, des tremblements de terre, que sais-je, y compris des phénomènes humains, certaines guerres notamment. On raconte qu'en l'an 837, l'empereur Louis Ier, Louis le Pieux, avait pris peur en observant justement la fameuse comète de Halley dans le ciel. Il en est mort, enfin en tout cas il est mort 3 ans plus tard, et on a longtemps associé sa mort au passage de la fameuse comète. Il a mis le temps quand même, 1000 jours pour mourir, mais tout de même. Elle aura été de bout en bout décrite comme une manifestation quasi divine, une apparition inattendue, suivie, et c'est là qu'est toute sa magie, d'une disparition. Bonjour Alain Sirou, je vous ai dit bonjour déjà tout à l'heure.
C'est avec plaisir.
N'est-ce pas, on se redit bonjour. Nous allons parler de cette comète de Halley, de toutes les autres comètes et d'une façon plus générale de ces phénomènes tout à fait passionnants.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
C'est la comète de Halley qui est au cœur de l'histoire cet après-midi. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec notre consultant scientifique d'Europe 1, Alain Sirou, également directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace.
Et c'est Jean-Marc qui, via un tweet, nous fait observer, c'est très joli comme histoire, que Mark Twain, le grand écrivain, est né et mort les années de passage de la comète de Halley. Il paraît qu'avant sa mort, il avait dit « Je suis venu avec elle, et bien je repartirai aussi avec ». C'est vrai, Alain Sirou, cette
histoire? Oui, c'est absolument vrai. D'ailleurs, c'est ça qui est aussi sans doute une des magies de la comète de Halley. La première
régularité, comme ça.
La régularité, c'est que 76 ans, je dirais, c'est en moyenne la vie d'un homme. Et ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un dans une famille qui a vu la comète de Halley et qui peut en parler aux autres. Et il y a une transmission presque naturelle. Et donc, quand la comète de Halley revient, on se dit « Tiens, il y a une génération d'hommes qui est passée. Qu'est-ce qui se passait il y a 76 ans ?»
Alors, je rappelle que vous êtes évidemment le directeur de la rédaction de Ciel et Espace, le magazine de l'astronomie, avec la découverte d'une multitude d'étoiles hors des galaxies dans ce numéro de février. Ouais. Hein, c'est assez inouï, ça.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en astronomie, on découvre que l'essentiel est invisible. C'est-à-dire que quand on voit les étoiles dans une galaxie, c'est-à-dire un village d'étoiles, de centaines de milliards d'étoiles, eh bien, on découvre aussi que entre les galaxies, là où on pensait qu'il n'y avait rien, Il y a vraisemblablement autant, si ce n'est pas plus, d'étoiles, mais cette fois-ci solitaires, qui errent, qui vaguent dans des espaces absolument démesurés.
Avant que je n'oublie, il faut aussi que je signale à nos auditeurs qu'on peut, sur le site internet d'Europe 1, sur europe1.fr, trouver des commentaires d'Alain Siroux sur un certain nombre de clichés venus de l'espace. Ça s'appelle « À la vitesse de la lumière ».
Oui, parce que c'est comme des tableaux, hein, le ciel. C'est-à-dire que quand les grands télescopes font des photos du ciel, eh bien on peut se mettre devant et expliquer ce que l'on voit. C'est à la fois beau, ça donne à penser, ça donne à rêver et ça donne à comprendre.
Est-ce que vous avez commenté des clichés venus de Rosetta ?
C'était la première, c'était la première chose. C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire avec les comètes, et en particulier le passage, je dirais, de la sonde Giotto près de la comète de Halley en 1986, c'est qu'on était déjà avec une sonde européenne passé près d'une comète, mais on ne s'était pas arrêté.
Près, c'était à combien à l'époque ?
Alors près, c'était quelques milliers de kilomètres de distance.
Non, oui, non, je précise quand même.
Là, c'était près.
C'est quand même assez près.
Ah, ouais. Pour l'astronomie, c'est très près. C'est vraiment. Évidemment, le rêve était né à ce moment-là, non pas de passer à côté, mais de se mettre en orbite autour d'une comète, c'est-à-dire d'accompagner une comète dans son trajet depuis les fins fonds du système solaire, en tout cas le plus loin qu'on pouvait, jusqu'au moment où elle passe au périhélie, c'est-à-dire au plus près du Soleil, et la voir se mettre en action, c'est-à-dire se réveiller, s'activer, chauffer au Soleil et voir ses geysers. Et on y est, on y est.
Et voilà. Maintenant, on a fait mieux que ça. Je vous avoue, quand j'ai appris ça, ça m'a fait, je pense que le mot n'est pas trop fort, ça m'a fait rêver. C'est-à-dire qu'on est allé carrément poser un artefact humain sur une comète. C'est racontez-nous cette histoire quand
on
même.
On a identifié une comète qui arrive et qui a été découverte par deux astronomes. Elle s'appelle Churyumov-Gerasimenko.
On l'appelle Churi, hein, c'est
Churi,
pour ça.
Churi, hein, monsieur. Oui. Donc, russe et ukrainien, c'est intéressant comme coup d'œil, hein, comme clin d'œil. Et effectivement, il y a eu la possibilité, grâce à la fois à Ariane 5 qui permettait de lancer cet engin, l'Agence spatiale européenne qui l'a financé et Airbus Espace, qu'il faut signaler parce que c'est des ingénieurs européens qui ont fabriqué ça, de fabriquer un engin qui a été se mettre en orbite autour de la comète Churi, qui s'appelle donc Rosetta, avec 11 instruments scientifiques à bord, dont un des instruments est un atterrisseur. Et donc, on a suivi en août dernier, d'abord l'approche, on était très loin, on était à 600 millions de kilomètres de la Terre, c'est-à-dire plus de 1000 fois la distance Terre-Lune, de s'approcher autour d'un engin qui est très petit, parce que même si ça fait que quelques kilomètres, bah, finalement, ça tiendrait à peine sur Paris, hein, ça occuperait à peine le centre de Paris.
À l'échelle intersidérale, c'est vraiment minuscule, c'est un grain de poussière,
de s'approcher très 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 près, de se mettre en orbite autour, parce que même si ça pèse des milliards de tonnes, c'est strictement rien en termes de masse, de donc réussir cette chose extraordinaire et de l'accompagner à partir du mois d'août vers le Soleil, parce qu'elle se rapproche du Soleil. En ce moment même, là, au moment où on parle, la sonde est en train de filer vers le noyau, parce qu'on va s'approcher au plus près samedi. Samedi, le jour de la Saint-Valentin d'ailleurs.
Là, samedi après-demain.
Samedi après-demain, il va y avoir presque un baiser. C'est-à-dire que Rosetta va frôler la comète à 6 000 mètres, mais c'est extraordinaire. Et puis, elle va continuer à tourner autour, en s'écartant quand même, et s'approcher la comète du Soleil, et elle va, ce qu'on observe déjà, commencer à fondre, et on va voir ces geysers extraordinaires.
Je plains les amoureux et les amoureuses des astronomes samedi, parce que, à mon avis...
Il y aura congé.
Oui, ils auront l'esprit totalement ailleurs, évidemment. On va suivre ça sur Europe 1, vous allez nous montrer les choses,
ouais. On va suivre, parce qu'on reçoit en direct pratiquement les images. On voit la comète comme on ne l'a jamais vue. C'est-à-dire que on a des détails de l'ordre du mètre. On peut voir quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Ça ressemble à une sorte de canard de foire, vous savez, avec un cou assez maigre et puis un corps assez trapu, ou une sorte de grosse cacahuète en quelque sorte. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir la structure d'une comète qu'on n'avait jamais vue. C'est-à-dire que c'est très difficile de donner une image, mais on dirait que c'est extrêmement sombre. Plus noir que le charbon, d'ailleurs. Plus noir que le charbon. Il y a des morceaux de rochers qui semblent collés à des parois. On voit des fissures, on voit des trous, des puits profonds, à partir desquels on sait que l'eau qui est présente sous la surface de poussière minérale va, par la chaleur, se sublimer et va sortir sous forme de geyser. C'est pour ça qu'il faut être très prudent, c'est que À un moment donné, la comète va fondre et elle a déjà commencé et ça se matérialise par une éjection dans l'espace de gaz, de poussière et de ce qu'on appelle de plasma, c'est-à-dire des gaz chauds qui vont former la structure de la comète. Une comète, c'est un noyau, c'est ce qu'on appelle une chevelure et ce qui s'étend derrière dans l'espace quand elle s'approche du Soleil, c'est la queue, une queue de gaz et une queue de poussière. Alors, la vision qu'il faut à voir, c'est qu'une comète, c'est pas une toile filante. Une comète voilà, dans le ciel, c'est comme la Lune en quelque sorte. C'est-à-dire ça bouge très légèrement, lentement, et vous ne la voyez pas bouger vraiment à l'œil nu, mais elle peut avoir des formes tout à fait extraordinaires. Ça peut ressembler à une épée, à un poignard, à
un éventail.
Cherchez le mot. Alors, il y avait on imaginait dans le passé des comètes avec des barbes, des comètes avec des cheveux. D'ailleurs, les cheveux étaient un signe de force et de malheur.
Un attribut de la comète.
Et donc ces matérialisations de l'éjection des gaz et de poussière lorsque la Terre passe dedans.
Mais j'allais dire, est-ce que ça présente un danger pour nous éventuellement?
Pas du tout, absolument pas, sauf quand on passe dedans, mais ce n'est pas un danger, ça s'appelle des étoiles filantes.
Voilà.
C'est-à-dire que quand la Terre rencontre des poussières qui ont été émises par la comète, ces étoiles filantes. Alors, il faut se mettre quand même dans la tête quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'il faut imaginer qu'il n'y a plus d'électricité, qu'il fait noir, qu'on sort le soir et que tout d'un coup, on a ce spectacle de la voûte céleste sous nos yeux et certaines comètes semblent avoir été dessinées par des peintres comme un trait de crayon, comme un pinceau qui a pratiquement couvert un tiers, parfois même plus de la moitié du ciel. Et ce phénomène n'effraie pas, mais interroge beaucoup.
Qu'est-ce qu'elles nous apprennent, ces comètes, sur le monde, sur l'univers, sur la création de notre univers?
Ce sont les archives du système solaire. Les comètes sont sans doute les objets les plus primitifs qui restent du moment où, finalement, il y avait autour de notre Soleil, né il y a presque 5 milliards d'années, un disque de poussière qui s'est agrégé, qui s'est accrété, comme on dit, pour fabriquer les planètes. Il reste des grumeaux, comme une pâte à crêpes, au fond, c'est-à-dire assez loin, à une distance qui est très grande. On pense qu'il existe des dizaines, peut-être même des centaines de milliards de comètes, et que de temps en temps, parce qu'elles sont extrêmement loin pour une part, il y a deux réservoirs bien connus, semble-t-il, de temps en temps, il y en a une qui se décroche pour une raison, soit une étoile lointaine passe et la perturbe, soit il y a un phénomène d'attraction gravitationnelle, et elle se décroche de son réservoir et vient frôler le Soleil. Et à ce moment-là, elle se met donc à éjecter du gaz et de la poussière, et on a là sous les yeux finalement la matière primitive. De quoi était composé le disque principal qui a permis aux planètes de naître? Alors, est-ce que il y avait beaucoup d'eau? À quoi ressemblait cette eau? Est-ce qu'il y avait des acides aminés? Est-ce qu'il y avait du carbone qui a servi, je dirais, dans l'architecture de la conception du vivant? Et c'est tout ça qu'on veut voir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle Rosetta. On espère dans les comètes lire finalement ce qu'il y avait au départ. Par la recette.
Avant d'être un fidèle de Ciel et Espace, je lisais Science et Vie dans mon jeune temps. Je me rappelle d'un article qui disait que c'était les comètes qui avaient apporté l'eau sur la planète.
Alors ça justement, figurez-vous que c'est la première information que nous avons avec l'observation de Rosetta.
C'est une confirmation plus exactement.
Ce n'est pas une confirmation.
Ah non.
Justement,
ah non.
On pensait que les comètes avaient apporté l'eau sur Terre. Rosetta montre que la composition de l'eau de la comète n'est pas la même. Donc aujourd'hui, on pense que les comètes ont contribué en partie, mais que l'essentiel de l'eau qui est sur Terre, dans les océans, pourrait plutôt venir des astéroïdes primitifs, c'est-à-dire des cailloux hydratés, mais que les comètes y auraient contribué, mais pour une part. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que en regardant la comète et sa composition, on peut dire aujourd'hui quel est son lien avec la Terre.
Depuis 10 minutes, j'ai la très grande satisfaction de présenter une émission scientifique. Ça me plaît beaucoup.
De curiosité.
Mais si vous le voulez, eh bien, pour les 10 minutes qui restent, nous allons revenir à une émission d'histoire et j'aimerais boucler la boucle et revenir à la comète de Halley. Elle réserve encore un certain nombre de surprises à nos auditeurs.
extrait de la bande originale du film Interstellar sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de la comète de Halley, avec notre consultant scientifique d'Europe 1, Alain Sirou, qui est également directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace.
Est-ce que vous me permettez de faire une toute petite parenthèse, allez, on en rouvre une, pour parler de ce film Interstellar que j'ai vu, qui est une merveille. Ça a dû vous plaire, ça, Alain Sirou?
Oui, ça m'a beaucoup plu, oui.
C'est toute la question de la relativité du voyage, profitant des, comment on pourrait appeler ça,
des trous noirs, de la relativité. Mais ça montre aussi notre extrême solitude, c'est-à-dire que on se rend compte de quelque chose qui est extraordinaire, c'est que les distances dans l'univers nous pèsent. L'étoile la plus proche est à 4 années-lumière. Vous dites c'est à côté 4 années-lumière, à la vitesse de la lumière, mais avec la vitesse de nos fusées, il faudrait plus de 70 000 ans pour rejoindre l'étoile la plus proche. Donc on sent cette extrême solitude à travers la question du sommes-nous seuls, et quelles que soient les astuces qu'on peut trouver avec la physique théorique, on reste étonnamment seul.
Et on se retrouve un jour face à soi-même, c'est tout le thème de ce film. Je ferme donc la parenthèse et je reviens non seulement sur Terre, mais à l'échelle de l'histoire humaine. Alors là, ça c'est pas grand-chose. Quand même, ça nous émeut de voir que nos très lointains ancêtres, y compris dans des civilisations antiques, avaient déjà figuré des comètes. Ce qui prouve quand même que le phénomène les intriguait. Ils voyaient ces astres qui, comme vous le disiez, bougent de façon très très lente. Hein. Ça n'est pas toujours observable à l'œil nu. Mais le fait qu'ils se déplacent, ces astres, ça les fascinait, bien entendu.
Ils se déplacent et puis... La comète est un intrus. La comète ne respecte pas...
Elle vient
pas.
Déranger l'ordre du ciel.
Elle déroge parfaitement l'ordre du ciel, parce qu'elle n'est pas prévisible, parce qu'elle peut arriver de nulle part, parce qu'elle peut être très grande, petite, elle peut prendre plein de formes différentes. Et justement, les Chinois que vous citiez tout à l'heure, qui étaient des véritables concierges du ciel, hein, notaient tout, etc. Et ils nous ont énormément servi, parce qu'on sait aujourd'hui tous les événements.
Très joli, c'est le concierge du ciel.
Comme les Mésopotamiens, d'ailleurs, qu'on trouve sur des tablettes d'argile. Finalement, notez ça parce que le lien entre le puissant sur la Terre, donc la dynastie qui régnait à ce moment-là, et ce qui se passait dans le ciel ne pouvait être ignoré. C'était nécessairement un signe du ciel. Alors, les comètes dérangent et on voit des comètes qui ont un mouvement inverse de celui qu'on le pense, comètes rétrogrades. On voit des comètes qui restent très longtemps. Certaines comètes vont rester plusieurs centaines de jours et vont vraiment briller de façon extrêmement puissante.
Donc, quand vous dites qu'elles restent des centaines de jours, c'est-à-dire qu'on les retrouve tous les soirs, pour parler clairement.
On les retrouve tous les soirs et on les voit pour certaines qui occupent la moitié du ciel.
Voilà, oui.
En France, le 19e siècle est un siècle de comètes, tout à fait extraordinaire. À Paris...
Il y a une conjonction de comètes.
Une conjonction de comètes. Encore une fois, oubliez l'électricité. Et pratiquement tous les 10 ans, on voit arriver une grande comète qui occupe pratiquement la moitié du ciel. La comète Donati qui est dessinée au-dessus de Paris, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, la dernière comète...
Quand vous dites ça occupe la moitié du ciel, c'est-à-dire ça fait beaucoup de lumière, c'est ça ?
Ça veut dire que ça... C'est comme si vous aviez un trait de crayon qui est dessiné sur la moitié du ciel.
Voilà,
c'est-à-dire de l'horizon est jusqu'au zénith. Et vous voyez de nuit en nuit cette espèce de pinceau, je dirais, avancer très légèrement de nuit en nuit, hein, simplement. Et vous vous demandez ce que c'est, quoi. C'est un décor. C'est vraiment un décor. D'ailleurs, la dernière fois qu'une comète a été visible à Paris, c'était il y a quelques années. Les Parisiens regardaient sur les ponts se masser pour voir la comète au-dessus de Notre-Dame. Ou au-dessus du Sacré-Cœur, c'était assez extraordinaire. On voit bien qu'il y a un lien. Pour les astronomes, en tout cas ce qu'on appelait les astronomes, d'abord les astrologues et puis ensuite ceux qui se sont interrogés sur la nature du ciel, c'était évidemment la question de savoir si c'était des objets qui étaient dans le ciel ou si c'était quelque chose qui échappait au ciel lui-même. Donc ça c'est...
Pour pouvoir la définir, la comète, il faut bénéficier des calculs qui eux ne sont venus que tard. Alors je parlais de ce pauvre Palitzsch, là, cet ouais. Allemand, pendant très longtemps on a même ignoré jusqu'à son existence. Il a fallu, c'est ça qui est intéressant, c'est après coup que lorsqu'on a regardé les dates de publication des différents rapports, on s'est rendu compte que le plus ancien, celui qui avait l'antériorité sur les autres, c'était le sien. Mais évidemment, sinon, il n'aurait jamais eu voix au chapitre.
C'est ça la magie de l'astronomie. C'est-à-dire qu'on voit pendant très longtemps que les amateurs côtoient ce qu'on appelle aujourd'hui les professionnels.
Et ils ont droit de citer.
Regardez Clyde Tombaugh, dont on a déjà parlé, par exemple, qui a découvert Pluton. C'était un amateur du Kansas. Il était dans une ferme. Bon, Avec Halley, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'il y a vraiment une machine, entre guillemets, qui se met en route, c'est-à-dire il y a une interrogation sur la nature des comètes, il y a Tycho Brahe qui observe une comète et des étoiles, qui le premier réussit à démontrer physiquement que les comètes sont au-delà de la Lune, et puis vous avez Newton. Newton est un monstre, on en a parlé déjà ensemble ici, c'est quelqu'un qui est un cerveau extraordinaire qui va faire surgir les lois de la gravitation, quelque chose qui est absolument monstrueux. Et il n'a curieusement pas d'élèves, il a des sympathies légères.
Disciple, on va dire.
Oui, à peine. C'est quelqu'un qui est très enfermé. Oui. Et Halley est un personnage extraordinaire. Halley, c'est l'aventurier. C'est le s'aventurier, comme on dit. C'est-à-dire, on peut pas dire que ce soit un astronome. On dit que c'est quelqu'un qui s'intéresse au ciel. C'est plutôt un marin. C'est plutôt quelqu'un qui est extrêmement curieux, qui va s'intéresser, par exemple, aux cloches de plongeurs. Il va inventer les premières cloches de plongeurs. Il va s'intéresser à la Terre pour savoir si la Terre est creuse ou pas, enfin, c'est un personnage.
Un esprit pratique.
Un esprit pratique,
manière.
Génial. Et très jeune, il pointe des erreurs sur les cartes célestes. Et c'est comme ça qu'à 20 ans, il rentre à l'Académie des sciences, hein, ce qui est quand même pas mal. Et il a le premier, le culot d'aller voir Newton.
L'Académie royale britannique.
britannique. D'aller voir le Newton qui est enfermé depuis 10 ans, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est solitaire et qui n'est pas très sympathique, faut bien l'avouer, pour aller lui poser une question extrêmement importante qui est dites-moi, monsieur Newton, si un objet, un astre, arrivé de nulle part et était influencé par le Soleil, selon votre théorie de la gravitation, quelle forme aurait le mouvement de cet astre ? Et Newton, très surpris par la question, répond immédiatement « une ellipse ». C'est-à-dire qu'il a la réponse théorique à une interrogation pratique que s'était posée Halley, mais aussi Cassini en France, qui a eu cette intuition que finalement les comètes revenaient peut-être et que il fallait le démontrer.
Donc il y aurait une récurrence.
Il y aurait une récurrence. La réponse théorique, c'est Newton. Halley va travailler pendant de nombreuses années pour essayer de lier les observations qu'il recense ou qu'il a pu faire lui-même pour voir si une vingtaine de comètes peuvent être assimilées. Et il trouve trois résultats. C'est les trois passages de la comète de Halley qui lui permettent de prévoir
le suivant,
celui de 1758, qu'il ne verra pas puisqu'il mourra avant.
Ah, c'est terrible. Il n'a pas eu la confirmation pratique, expérimentale de sa prédiction scientifique.
Non, mais il aurait dit à la fin de sa vie que si c'était confirmé, mais n'oubliez pas de vous rappeler que cette découverte a été faite par un Anglais.
Et un Anglais qui, comme bien des Anglais, avait cette fibre maritime, en fait. Hein, c'est
oui,
ça, hein.
parce que c'est le commerce international. Et puis, à l'époque, on lit très fortement le déplacement en bateau et l'observation du ciel. Il n'y a pas de GPS. Donc, ça veut dire que se situer en mer, ça veut dire être particulièrement clair sur les latitudes et les longitudes et de transporter le temps avec soi. Parce que on utilise le ciel comme une façon de se repérer, mais à condition d'avoir des montres marines qui soient parfaites et donc lier l'observation du ciel et le voyage en mer, c'est un progrès.
Mais alors, si les comètes peuvent revenir, et c'est le cas donc de cette comète de Halley, ces passages sont sans doute de plus en plus discrets, puisque, si j'ai bien suivi ce que vous nous disiez, quand elles s'approchent du Soleil, elles ont tendance à fondre, ces oui. fameuses comètes. Donc, petit à petit, la comète de Halley n'est plus tout à fait la même. À quoi est-ce qu'elle ressemble physiquement? Je disais une cacahuète tout à l'heure.
C'est une très bonne image. C'est un objet extrêmement sombre, encore une fois plus sombre que le charbon, qu'on a entreaperçu, puisqu'on est passé très vite. Elle ressemble vraisemblablement à celle qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire Tchouri. Hein. C'est un objet assez exotique. Si on la posait sur l'océan, elle flotterait. Elle est peu dense. Il y a beaucoup de vide, semble-t-il. Encore une fois, on a du mal à décrire cet objet parce que il est un mélange de glace, de poussière. Il est sans doute extrêmement, j'allais dire, caramélisé à la surface. Il a brûlé, vous voyez. On pense aujourd'hui que la comète pourrait maigrir de 10 à 20 mètres. On voit certaines comètes se casser en morceaux et disparaître dans le Soleil. Donc, il n'y a rien qui dure toujours, hein, pas même les comètes.
Un jour, on ne la reverra plus.
On ne la reverra plus, mais tout dépend finalement de la distance à laquelle elle passe à côté du Soleil. Donc là, pour l'instant, on a des prévisions qui sont encore valables. Je vous promets, Franck, que nous pourrons l'observer au prochain passage. Elle passe au périhélie en juin-juillet 2061, donc je vous donne rendez-vous.
Omen Akipio, les anciens disaient j'en accepte l'augure, et pourquoi pas. Mais 2061, on sera peut-être pas tout à fait frais, mon cher, mais enfin, on ne sait pas dans quel état nous serons. Cette comète n'est pas la seule à revenir, il faut peut-être dire, non. Est-ce qu'on a réussi à en identifier d'autres ?
Plein, absolument plein. D'ailleurs, celle qu'on suit actuellement, Thury, elle revient régulièrement. Il y a des comètes qui reviennent assez régulièrement, tous les 2-3 ans. D'autres qui ne reviennent jamais, qui sont sur des orbites hyperboliques et qui repartent. Aujourd'hui, figurez-vous, ce qu'on attend, le petit miracle, entre guillemets, qu'on attend, ça serait une comète qui viendrait d'une autre étoile. C'est-à-dire, ça serait une comète qui aurait été accélérée par une autre étoile et qui
nous en apprendrait beaucoup alors.
Et qui nous apprendrait sur ce qui se passe ailleurs.
Eh oui.
Pour l'instant, on n'en a pas encore découvert parce qu'il faut quand même effectivement avoir des orbites qui nous montrent que ça vient d'ailleurs. C'est pas nécessairement très simple, mais on sait qu'il y a autour d'autres étoiles des comètes, que ces comètes sont encore une fois les grumeaux de leur formation. Ce sont nos ancêtres, ce sont des histoires et ce sont des histoires qu'on n'est pas aujourd'hui nécessairement capable de raconter parce que, justement, c'est ça le propre de la découverte, de la recherche, c'est qu'on trouve des choses qu'on attendait ou qu'on cherchait pas.
En attendant de revoir la comète de Halley en 2061, est-ce qu'il y en a d'autres qu'on va pouvoir observer plus près de nous ?
Alors, il y a certaines qui sont vraiment prévues et qu'on attend. Et puis, l'essentiel, je dirais, c'est celle qu'on n'attend pas. Et on attend toujours la grande comète qui va nous permettre tous de sortir le soir, regarder cet astre étrange et merveilleux, peut-être écouter les potins de la comète.
Chevelues, si possible, parce qu'elles ne le sont pas toutes.
Hein. Non, pas toutes. Et puis belles, brillantes, et qui nous laissent à penser que lever la tête aux cieux, s'interroger sur l'univers, c'est sans doute ce qui fait une grande part de notre humanité.
Alors, à défaut d'observer une comète, très bientôt, là, pour le printemps prochain, aux alentours du 20 mars prochain, on va pouvoir observer une éclipse importante, hein, presque à 9 sur 10, à 86%.
Pratiquement toute la France aura droit le vendredi 20 mars, vers 10h30. Alors, c'est important parce que les enfants sont dans les écoles. Donc, ça veut dire que les professeurs peuvent
en profiter
et montrer l'éclipse pratiquement 80% du soleil sera grignoté par le disque lunaire vers 10h30 du matin. Et je pense qu'on en reparlera.
Alors, évidemment, vous serez là pour en parler. Peut-être qu'on pourrait en profiter pour faire une histoire des éclipses. Je regarde Lorena Martin en posant la question. On pourrait monter, prenons date, cher Alain, et essayons de faire une émission sur les éclipses. Dieu sait qu'elles ont eu un rôle très important, y compris dans la politique, à plusieurs reprises. Hein. On a eu des éclipses qui ont été utilisées par un certain nombre de leurs observateurs. Ce sera donc aux alentours du 20 mars. Bon, on va essayer de faire ça dans la première quinzaine de mars, si c'est possible. Je rappelle donc le numéro de février de la revue Ciel et Espace, avec ces multitudes d'étoiles hors des galaxies, avec le rêve russe d'un retour sur la Lune, avec ce nuage qui a survécu au trou noir. Là, ça devient très, très complexe ce que vous racontez.
Très beau.
Mais très beau, évidemment. Et puis alors ça, c'est beaucoup plus à la portée des littéraires dans mon genre. Les Alpes sous la Voie lactée. Là, vous voyez, vous savez nous parler quand vous parlez ainsi. Et puis donc, je rappelle, votre passage sur le site d'Europe 1, c'est toutes les semaines ?
Toutes les semaines, tous les mercredis.
Tous les mercredis, donc, ce commentaire d'un des beaux clichés, d'une des belles photos envoyées de l'espace. Et ça s'appelle « À la vitesse de la lumière ». C'est un peu la façon dont nous avons mené cette émission sur les comètes, Alain Sirou. Eh oui, c'est déjà fini, hélas. Mais quand même, il va y avoir un tout petit peu de rab, puisque je vais vous parler de cette expression « tirer des plans sur la comète » dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Un retour aux origines en lien direct avec notre sujet du jour. Expliquez-nous, Franck, d'où vient l'expression « tirer des plans sur la comète ».
Vous savez, si les comètes se déplacent sur l'horizon, si je puis dire, de la même façon, un certain nombre d'expressions se déplacent pour ce qui est du sens. C'est pas tout à fait le sens aujourd'hui quand vous dites « tirer des plans sur la comète », ça veut dire faire des projets sur des bases, sur des hypothèses qui sont pour le moins floues et même totalement instables. C'était pas tout à fait le sens de l'expression lorsqu'elle est apparue, semble-t-il, à la fin du 19e siècle. On peut même la dater, cette expression. 1882, ça fait partie, 1882, de ces années fastes dont nous parlait Alain Sirou il y a un instant. Il y a eu effectivement, dans la deuxième partie du 19e siècle, un grand nombre de comètes, et celle de 1882 était particulièrement brillante, particulièrement remarquable. C'est celle justement qui faisait cette espèce de grand arc très lumineux, et c'était spectaculaire. Et donc tout le monde parlait de la comète, comme en 1758, comme la fameuse année de la comète aussi, 1682, dont on parlait. Et du coup, c'était dans toutes les conversations, et l'on disait tirer des plans sur la comète, ça voulait dire que pour être capable de localiser la fameuse comète, et pour comprendre non seulement quel serait son mouvement, sa position, mais sa récurrence éventuelle, il fallait faire des calculs extraordinairement savants. Et tirer des plans sur la comète, c'était capable de rentrer dans des calculs très très alambiqués, très subtils, très savants, avec un nombre de paramètres tels qu'on risquait fort de n'avoir pas la réponse finale et de se tromper dans le résultat. Et puis petit à petit, vous voyez, ça a donc évolué et le sens est devenu celui de prendre tout simplement un grand risque d'échouer en faisant des calculs sur une chose qui n'est pas calculable. Voilà le sens que ça a pris aujourd'hui. Mais vous voyez que c'est une expression relativement récente et qui est directement liée au fameux passage de la comète de 1882, dont j'ignore le nom, Alain Suard.
Son nom n'est pas très connu, mais elle est connue pour une particularité, c'est que les observateurs ont vu des morceaux se détacher du noyau. Et il y a eu l'idée que la comète n'était pas intègre. C'est-à-dire qu'elle allait passer derrière le Soleil, on n'était pas sûr qu'elle allait revenir. On ne savait pas de quoi elle était constituée, mais on s'est posé la question de savoir pourquoi elle se coupait en morceaux.
On peut dire que voilà l'explication la plus complète qu'on ait jamais eue dans cette rubrique de retour aux origines. Puisqu'il me reste quelques secondes, je vous signale que demain, nous serons au musée Gustave Moreau, un endroit tout à fait extraordinaire, à mon avis l'un des plus charmants, les plus romantiques à Paris. On va visiter cet atelier de Gustave Moreau qui vient d'être rouvert après 18 mois de travaux. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe, Lorena, Marion, Mathilde, Christophe, Jean-François qui est aux manettes, bien entendu. Tout le monde, toute l'équipe que nous emmènerons demain dans le 9e arrondissement.